VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, coup d'état au Soudan. Le général Bourane dissout les autorités de transition, décrète l'état d'urgence, le tout suivi d'un concert de condamnation au plan international. Le Mali expulse le représentant de la CEDEAO pour agissement incompatible avec son statut. La junte lui donne 72 heures pour quitter le pays. Au Burkina Faso, reprise du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 12 des 14 accusés étaient présents ce lundi à la barre, dont le général Gilbert Diendéré. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la famine qui menace l'Afghanistan cet hiver. Plus de la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Soudan, deux manifestants partisans d'un pouvoir civil ont été tués et plus de 80 autres blessés par des tirs de l'armée à Khartoum. C'est ce qu'a annoncé un syndicat de médecins pro-démocratie aujourd'hui en plein coup d'État. La quasi-totalité des dirigeants civils et des autorités de transition ont été arrêtés par des militaires. Le point avec Jacques Aristide.
Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui chapeautait les autorités de transition, a fait état de la dissolution du gouvernement. Il a décrété l'état d'urgence alors que des tirs ont été entendus quand les manifestants pro-démocratie sont descendus dans la rue. Depuis le petit matin, le coup d'état s'est déroulé en plusieurs étapes. Le premier ministre Abdallah Hamdok, son épouse, nombre de ses ministres et tous les membres civils du Conseil de souveraineté, plus haute autorité de la transition, ont été arrêté par les militaires. La télévision d'État a été prise par l'armée et à la mi-journée, le général Abdel Fattah al-Burhan y est apparu, ne cessant de répéter qu'il souhaitait toujours une transition vers un État civil et des élections libres en 2023. Il a malgré tout relevé tous les dirigeants de leurs fonctions. Le gouvernement est donc dissous, de même que le Conseil de souveraineté, a-t-il dit, les préfets et ministres sont limogés. Et l'état d'urgence est déclaré dans tout le pays, a-t-il ajouté.
Ce coup de force a été condamné à travers le monde. Le sort des dirigeants civils de la transition inquiète également. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
L'Union africaine appelle à une reprise immédiate du dialogue entre civils et militaires. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec une profonde consternation la grave évolution de la situation au Soudan, affirme un communiqué de l'organisation panafricaine. Le secrétaire général de l'ONU condamne ce qu'il appelle un coup d'État en cours, réclamant la libération immédiate du premier ministre Abdallah Hamdok. Pour sa part, l'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, appelle les forces armées à relâcher immédiatement les personnes retenues, jugeant inacceptables les arrestations de la quasi-totalité des civils au sein des autorités de transition. Les États-Unis se sont dit profondément inquiets, prévenant que tout changement du gouvernement de transition mettait en danger l'aide américaine. De son côté, la Commission européenne appelle à la libération rapide des dirigeants civils du gouvernement et réclame un rétablissement urgent des communications dans le pays. Le président français Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État et appelle au respect de l'intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils.
Les États-Unis qui ont réclamé lundi le rétablissement immédiat du gouvernement civil renversé par les militaires au Soudan ont annoncé ce soir la suspension d'une aide financière importante de 700 millions de dollars à la transition soudanaise. Le Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO Hamidou Boly pour agissement incompatible avec son statut. Le diplomate de nationalité burkinabé a 72 heures pour quitter le territoire national. L'annonce du gouvernement malien a lieu dans un contexte diplomatique délicat, alors que la junte au pouvoir affiche de plus en plus clairement sa volonté de reporter les élections présidentielles et législatives, devant permettre un retour à un pouvoir civil. La CEDEAO exige le respect du calendrier électoral, une exigence réitérée par une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en visite hier à Bamako. Nous reviendrons sur cette visite dans les dossiers du jour. Au Burkina Faso, reprise à Ouagadougou ce lundi du procès des assassins présumés de l'ancien président Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État. Il avait été suspendu le 11 octobre à la demande de la défense qui voulait plus de temps pour étudier les pièces du dossier. Nathalie Barge.
12 des 14 accusés étaient présents ce lundi à la reprise du procès, dont le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, était absent à la reprise du procès, tout comme à son ouverture le 11 octobre. Ses avocats ont dénoncé ce qu'ils appellent un simulacre de procès devant un tribunal d'exception. Blaise Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire depuis 2014, est accusé de complicité d'assassinat, recel de cadavres et attentat à la sûreté de l'État. Les mêmes accusations pèsent sur le général Diendéré, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Parmi les accusés figurent également des soldats de l'ancienne garde présidentielle, dont l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafando, toujours en fuite. Il est soupçonné d'avoir été le chef du commando qui a assassiné Thomas Sankara le 15 octobre 1987.
Au Congo-Brazzaville, les membres du gouvernement ont déposé lundi devant la Cour suprême leur déclaration de patrimoine répondant à une exigence constitutionnelle. Le premier ministre Anatole Coliné Makoso, 32 des 38 membres de son équipe, ont remis leur déclaration au premier président de la Cour suprême, Henri Bouka. Une disposition de la Constitution adoptée en 2015 fait obligation aux élus ou nommés à de hautes fonctions de déclarer leurs biens 3 mois après leur prise de fonction, puis après la cessation de celle-ci. En République démocratique du Congo voisine, l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, poursuivi pour détournement présumé de fonds publics, a brièvement comparu aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Monsieur Matata a comparu aux côtés de Patrice Kitebi, ministre délégué auprès du premier ministre au moment des faits, et d'un ressortissant sud-africain, Grobler Christo, présenté comme gérant d'une société sud-africaine. La Cour a constaté que ce dernier n'avait pas d'interprète et a renvoyé les débats au 8 novembre. Les 3 prévenus qui comparaissaient libres sont soupçonnés de détournement de fonds publics alloués au parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo, à 200 km au sud-est de Kinshasa. L'artiste star de la rumba congolaise Koffi Olomidé s'est présenté aujourd'hui devant la Cour d'appel de Versailles, en région parisienne, au premier jour de son procès pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses danseuses entre 2002 et 2006. 4 femmes qui ont déposé plainte entre 2007 et 2013 l'accusent de les avoir enfermées dans un pavillon près de Paris lors de ses tournées françaises et les a forcées à avoir des relations sexuelles avec lui. Une 50aine de personnes s'étaient rassemblées devant la cour d'appel pour soutenir les parties civiles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afghanistan est au seuil d'une des pires crises humanitaires au monde, ont averti ce lundi les agences de l'ONU. Cet hiver, plus de la moitié de sa population pourrait être en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Les détails avec Mohamed Oumfa.
Le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont déclaré dans un communiqué conjoint que près de 23 millions d'Afghans vont manquer cruellement de nourriture dans les prochains mois. Une crise alimentaire provoquée par les effets combinés de la sécheresse et de la crise économique aggravée par la prise de pouvoir des talibans en août dernier. Cet hiver, des millions d'Afghans seront contraints de choisir entre partir ou mourir de faim à moins que nous ne puissions intensifier notre aide pour sauver des vies, a indiqué David Bisley, directeur exécutif du PAM. Le PAM et la FAO ont annoncé que leur réponse sera affectée par le manque de ressources. Les 2 agences onusiennes n'ont reçu pour l'heure que le tiers des fonds qu'elles réclament. La FAO dit avoir un besoin urgent de 11,4 millions de dollars et cherche 200 millions de dollars supplémentaires pour la saison agricole 2022. La communauté internationale a promis des centaines de millions de dollars d'aide, mais cherche un mécanisme pour verser cet argent sans passer par le gouvernement taliban.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se déplace lundi dans le New Jersey
pour vanter encore et encore son programme de réforme économique et sociale, sur lequel les parlementaires démocrates semblent enfin accorder leur violon. Après bien des compromis, Joe Biden veut donner un dernier coup de collier avant de partir pour Rome, où il participera en fin de semaine au sommet du G20, puis Glasgow pour le grand sommet COP26 sur le climat. Les organisateurs de la COP26 jugent atteignable en 2023 l'objectif de 100 milliards de dollars annuels d'aide des pays riches aux pays pauvres pour les aider à faire face à la crise climatique, selon un rapport publié ce lundi. Les dernières analyses des engagements financiers rendent confiant que l'objectif sera atteint en 2023 et dépassé les années suivantes, selon ce rapport publié par la présidence britannique de la conférence à 6 jours de son lancement à Glasgow. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA. À présent, la minute écho avec Mouhamadou Moufa.
Le Nigeria lance officiellement une nouvelle version numérique de sa monnaie, le Naira, après avoir différé l'opération initialement prévue début octobre. Avec ce lancement, le Nigeria fait figure de pionnier sur le continent aux côtés du Ghana, qui teste depuis septembre son ECD comme nouveau moyen d'échange. Les crypto-monnaies sont très utilisées au Nigeria, classé en 2020 troisième utilisateur de monnaie virtuelle au monde, après les États-Unis et la Russie, par une étude du cabinet de recherche spécialisé Statista. Le groupe français Thales vient de terminer la livraison du système de gestion du trafic aérien et des radars pour l'autorité aéronautique tanzanienne. Ces installations permettent d'automatiser les centres de contrôle en route, d'approche et d'aérodrome, donc d'obtenir une vue d'ensemble très précieuse du trafic aérien, indique le groupe dans un communiqué. L'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme, qui devait se tenir fin novembre à Marrakech, aura finalement lieu à Madrid, le Maroc ayant renoncé à l'accueillir en raison de sa situation sanitaire. Cette assemblée prévue du 30 novembre au 3 décembre est consacrée à la reprise de l'activité touristique après la pandémie de COVID-19. Le secteur du tourisme a connu en 2020 la pire année de son histoire, avec une baisse des mouvements internationaux de 75% selon l'OMT.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Nous commençons par les matchs du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF disputés le week-end écoulé. En Ligue des Champions, le Oroya de Conakry s'est qualifié pour la phase de poule grâce à sa victoire 1-0 face au Stade malien. Ça passe aussi pour l'Espérance de Tunis qui élimine dans la douleur les Libyens d'Al Ittihad 0-0 à l'aller, 1-0 au retour. Les deux clubs de Casablanca y seront également, le Raja non sans peine devant les Libériens d'Oilers et le Wydad qui s'est rattrapé face au Ghanéen Dart of Rock. Alali défendra bien son titre après sa large victoire 6-1 devant les Nigériens de l'US Gendarmerie. En revanche, pas de phase de poule pour l'ASEC d'Abidjan, vainqueur à l'aller 3-1 devant le CR Belouizdad, mais qui a craqué en Algérie, défaite 2-0. Même scénario pour les Mauritaniens du FC Nouadhibou, sorti par le second club d'Algérie. L'entente de Sétif, contre-performance aussi pour les clubs congolais, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union, tous éliminés par les deux clubs sud-africains AmaZulu et Maluelodi Sundowns. En coupe de la Confédération, le Daring Club Motoma Pembe s'est qualifié pour les barrages en battant l'AS Kigali 2-1 à l'aller. Comme au retour, mission accomplie aussi pour les Kenyans de Gor Mahia, la JS Kabylie, la Renaissance de Berkane ou encore Orlando Pirates, tombeur des Diables Noirs de Brazzaville. Grosse performance pour le club de deuxième division du Mali, Binga FC, qualifié aux dépens des Burkinabés de l'Asfayinega. Élimination par contre pour les Sénégalais de Diambars, battus par les Nigériens d'Enimba 1-0 puis 3-0. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football de la Sierra Leone, Abdoulaye Kaluga, accusé de harcèlement par plusieurs joueuses, a été suspendu, annonce la Fédération de football. Cette dernière dit avoir reçu plusieurs SMS et enregistrements audio de joueuses qui ont permis de mettre au jour un comportement fait de harcèlement et d'intimidation, a déclaré Ibrahim Camara, son porte-parole, sans donner plus de détails. NBA, pour finir, Les Los Angeles Lakers ont obtenu leur première victoire de la saison en s'imposant à domicile face à Memphis, 121 à 118 à Brooklyn. Les Nets d'un Kevin Durant un peu isolé, 38 points, se sont inclinés pour leur premier match à domicile face aux Hornets de Charlotte, 111-95. Toujours invaincus après trois rencontres comme les Golden State Warriors de Stephen Curry qui sont allés l'emporter à Sacramento, 119-107. À noter également la première défaite des New York Knicks, surpris à domicile par le Magic d'Orlando, 110-104. La première victoire des Celtics de Boston à Houston, 107-97. Et la victoire des Sixers de Philadelphie à Oklahoma City, 115-103.
Page des sports signée Yacouba Oudraou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est l'escalade ce lundi au Soudan, après des mois de tensions et de luttes de pouvoir entre civils et militaires qui dirigent la transition. Le Premier ministre et plusieurs ministres sont aux arrêts, suscitant des manifestations à Khartoum et des appels à leur libération à travers le monde. Pour une analyse sur la situation au Soudan, Abdourahman Dia, adjoint à Paris, Mohamed Nagy, rédacteur en chef du journal en ligne Soudan Tribune.
En fait, c'est une surprise parce que malgré le fait qu'il y ait une crise politique au pays depuis un mois, c'est-à-dire après le coup d'État avorté du 21 septembre, malgré tout ça, les partis s'engagent à chercher dans le dialogue, à résorber, j'allais dire, le conflit. Et d'autant plus que l'envoyé américain, et il est toujours en carton, vous voyez.
Justement, qu'est-ce que le général Al-Burhan reproche aux civils, notamment au premier ministre Abdullah Hamdok?
Tout simplement, c'est que lui, il demande la dissolution de ce gouvernement. Parce que, bien sûr, il n'arrêtait pas de dénoncer le refus du militaire d'appliquer les réformes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une réforme qui concerne l'armée et les milices. Ils ne veulent pas, comme ils refusent d'unifier l'armée et d'appliquer toutes les réformes qui sont entérinées par les partis depuis deux ans. Donc, c'est légitime beaucoup que cette montée de critiques de la part de gouvernement civil à son encontre, à lui et aux militaires.
Quelles peuvent être les conséquences au niveau international quand on sait que le Soudan commençait un peu à revenir sur la scène internationale avec notamment le FMI, la Banque mondiale qui ont repris leur coopération financière et économique?
Écoutez, il va de soi que l'impact va être très très difficile sur la situation économique dans le pays. Comme ils ont fait un coup d'État, ça va engendrer, n'est-ce pas, la suspension de tous les accords, tout ce qui vient d'être signé ici et là par rapport à l'aide économique au Soudan. La même chose par rapport à l'Europe. Et aussi, il va engager une série de mesures contre la junte militaire. Al-Burhan, il dit que ce n'est pas un coup d'État, mais stricto sensu, c'est un coup d'État. D'autant plus, il a annoncé la suspension d'un certain nombre d'articles dans la charte constitutionnelle. Et justement, il a suspendu l'article qui annonce la dissolution du Conseil militaire de transition.
C'était le journaliste soudanais Mohamed Nagy.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition soudanaise mise à mal par le bras de fer entre civils et militaires. Ces derniers ont arrêté lundi le premier ministre Abdallah Hamdok et plusieurs membres du gouvernement après des mois de crise interne dans la conduite de la transition. Ce coup de force a provoqué des manifestations à Khartoum et suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Quelles conséquences pour le Soudan et la région? Comment assurer une bonne cohabitation entre civils et militaires dans la transition? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Direction le Mali, la question du respect du calendrier électoral, la sécurité au nord et au centre du pays, l'éventualité d'un dialogue avec les groupes armés sont entre autres les sujets abordés par la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la société civile et les autorités de la transition lors de son séjour à Bamako. Compte rendu de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Du samedi au dimanche, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a séjourné au Mali. La délégation est venue s'enquérir de l'état de mise en œuvre de la feuille de route de la transition et surtout d'aborder la cruciale question du respect du calendrier électoral qui prévoit la tenue de la présidentielle en février 2022. Abdou Abari, ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies.
Nous avons parlé de la tenue des assises de refondation comme une sorte de préalable avant la tenue des élections. Le chronogramme indique que ces assises pourraient prendre fin vers décembre, donc vers fin de l'année, et que c'est à l'issue de ce processus-là qu'un calendrier consensuel sera établi.
Au cours de cette visite, où la délégation a rencontré les acteurs de la société civile et les autorités de la transition, il a été question du renforcement de la mission onusienne pour plus de sécurité, notamment dans le centre du pays. Nicolas Derivière, ambassadeur de la France auprès des Nations Unies.
Il est proposé de renforcer la MINUSMA, notamment pour lui donner une présence accrue dans la région du centre, qui est actuellement celle qui est la plus menacée par les groupes terroristes. Donc les Nations Unies sont prêtes à le faire en liaison avec les autorités maliennes si elles le souhaitent.
Pour les citoyens maliens, cette visite permettra aux Nations Unies de mieux comprendre les réalités et d'agir en fonction.
En tout cas, il était bien que la communauté internationale vienne échanger effectivement avec les autorités maliennes pour comprendre leurs spécificités, leur approche quant à l'organisation prochaine d'une élection. Les divergences se font entendre depuis un certain moment, mais de l'extérieur, peut-être qu'il était difficile pour les uns et les autres de mieux appréhender la situation au Mali. Et je pense que cette visite vient à point nommé et cela permettra effectivement de connaître un peu la vision des Maliens de manière globale et en plus des autorités maliennes quant à la sortie des crises. Les élections sont nécessaires, certes, mais il y a aussi certaines réalités qu'il faut également prendre en compte.
On ne peut pas insister les Maliens, la transition à faire une élection sur cette lancée. Ça ne va pas au nord, ça ne va pas au centre. Bon, on peut même dire que ça ne va pas dans le Mali entier, à part Bamako, où il y a un peu de sécurité.
Pour Abdou Abari, si les autorités maliennes estiment que c'est le dialogue avec les groupes armés qui pourra ramener la paix, les Nations Unies ne pourront que soutenir leur décision. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le Nigeria a lancé officiellement ce lundi une nouvelle version numérique de sa monnaie, l'e-Naira, a annoncé le président Muhammadu Buhari. Nous sommes devenus le premier pays d'Afrique et l'un des premiers au monde à avoir introduit une monnaie numérique pour nos citoyens, a déclaré M. Buhari. Abuja indique que cette crypto-monnaie permet d'économiser sur les coûts d'impression et de distribution en espèces. Le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Les autorités nigériennes espèrent tirer parti de la popularité de la crypto-monnaie afin de mieux surveiller les transactions en devises numériques, freiner les échanges sur le marché noir du Naira et également aider à intégrer des millions de Nigériens dans le secteur bancaire. Certains sont optimistes.
Je pense que sur le plan international, ça aura un impact sur l'économie du pays. Même au niveau national, les transactions et transferts seront plus faciles pour l'intérêt des citoyens.
C'est une bonne innovation, mais la seule difficulté qu'on pourrait avoir dans les jours à venir pour la bonne marche de cette monnaie sera le problème d'électricité.
Mais d'autres disent n'avoir aucune information sur cette nouvelle monnaie numérique.
Je ne peux vous dire beaucoup à propos de cette monnaie e-Naira. Je pense que le gouvernement doit sensibiliser les gens. Si vous demandez à 10 personnes maintenant, peut-être que seulement une ou deux ont une idée de ce que signifie e-Naira. Donc son introduction par la Banque centrale est certainement une bonne chose pour le pays.
Les autorités et les experts affirment que la monnaie numérique e-Naira va faciliter les transactions monétaires et améliorer la valeur à long terme de la monnaie nigériane qui a atteint sa valeur la plus basse depuis 2023. Godwin Emefiele est le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.
Il y a de diverses sortes de Naira, mais c'est comme ça que nous allons commencer. Nous ne pouvons pas prétendre pour dire qu'il n'y a pas de risque en ouvrant votre système. Nous prendrons soin de vérifier tous les produits, déterminer les risques, trouver la meilleure manière de réduire les risques avant de passer à l'étape suivante.
Depuis quelques années, la Banque centrale du Nigeria s'inquiète de l'impact des crypto-monnaies sur son économie, arguant qu'elles pourraient être utilisées pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le pays est aussi connu pour ses brouteurs qui multiplient les arnaques sur Internet. Avec ce lancement, les Nigériens pourront tout simplement télécharger l'application eNaira et alimenter leur portefeuille mobile en utilisant leur compte bancaire. Le pays fait figure de pionnier sur le continent aux côtés du Ghana qui teste depuis septembre son ECD. Les crypto-monnaies sont très utilisées au Nigeria, classé en 2020 troisième utilisateur de monnaie virtuelle au monde après les États-Unis et la Russie. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des millions de personnes aux États-Unis se préparent à recevoir des injections de rappel contre le COVID-19 à l'heure où la controverse enfle autour de l'obligation vaccinale. Le point avec Michel Quinn, récit Jacques Aristide.
Environ 77% des Américains ont d'ores et déjà reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid. Ils abordent maintenant une nouvelle étape. Les CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, ont donné le feu vert aux injections de rappel pour les trois vaccins déjà autorisés, Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer. Pour la dose de rappel, les CDC indiquent que les gens peuvent choisir un vaccin différent que celui utilisé initialement pour l'immunisation, ce qui équivaut à un mélange de vaccins. Le docteur Anthony Fauci est le conseiller médical en chef de la Maison Blanche. Il prenait part dimanche au programme This Week de la chaîne ABC.
Cela permet aux gens d'obtenir un degré de flexibilité considérable pour la dose de rappel, laquelle nous espérons qu'ils recevront, ce qui augmentera et améliorera leur protection.
Le laboratoire Pfizer affirme que son vaccin anti-Covid est sûr et efficace pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Les autorités sanitaires du pays étudient cette semaine les données de l'entreprise et sa demande d'autorisation pour cette tranche d'âge, avec la possibilité d'entamer les inoculations dès le mois prochain. Pendant ce temps, un peu plus de 22% des adultes aux États-Unis ne se sont pas encore fait vacciner. De plus en plus d'entreprises opte pour la vaccination obligatoire, comme la compagnie American Airlines, qui réclame à ses employés d'apporter la preuve qu'ils ont bien été vaccinés d'ici la fin de novembre. Autrement, ils risquent de perdre leur emploi. La ville de New York offre $500 pour encourager ses fonctionnaires récalcitrants à recevoir leur première dose, mais promet des mesures à l'encontre de ceux qui continuent de refuser le vaccin. Bill de Blasio, maire de New York.
Comme nous l'avons vu dans les soins de santé et dans l'éducation, vous allez recevoir une lettre qui dit qu'à partir du 1er novembre, vous allez être mis en congé sans solde. Nous ne voulons cela pour personne. Nous voulons juste faire vacciner les gens.
Pour le syndicat de la police de New York, se faire vacciner est une décision médicale personnelle. Il compte intenter un procès pour protéger les droits de ses membres. L'obligation vaccinale ne fait pas l'unanimité. Dans un récent sondage de Hill Harris X, 58% des Américains sont d'avis qu'elle est à lutter contre le Covid-19, mais 24% affirment qu'elle fait mal au pays. Même avis partagé pour ce qui est de savoir si la vaccination obligatoire peut aider l'économie. 51% le croient, mais 35% disent non. La façon dont les États-Unis vont gérer la pandémie dans les mois à venir aura probablement des retombées politiques. En outre, les Américains s'inquiètent des problèmes d'ordre économique, de l'inflation et de la chaîne d'approvisionnement. Au cours des dernières semaines, la cote d'approbation du président Joe Biden a chuté avec une moyenne de 43%.
Le monde aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.